Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Influence, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme.
C'était le grand studio RTL de Grand Corps Malade. Rendez-vous bientôt hein, au cinéma. Puis cette belle tournée qu'il nous a offert. Quant à Pierre Guénard, regardez, vous trouverez sans doute des dates de tournée. Puis le dernier album de Pierre est absolument formidable. On se retrouve demain, 10h15 sur RTL pour de nouvelles aventures, mais cette fois-ci dans Stop ou Encore. Ciao à tous. On refait le match dans quelques petites secondes sur RTL. Il est 19h. Les informations d'RTL sont présentées par Rémi Jacob. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. 8000 personnes présentes cet après-midi dans les rues de Châteauroux pour un dernier hommage à Matisse. C'est cet adolescent de 15 ans poignardé la semaine dernière par un jeune du même âge. Une marche blanche qui s'est déroulée dans le calme avec de nombreux anonymes venus témoigner leur solidarité à la famille de Matisse, à l'image de Gérard.
Père d'un gamin de 15 ans dans des conditions comme ça, c'est inadmissible. Et je suis grand-père, oui, avec des petits-enfants qui sont même un peu plus vieux que lui. On doit être présent pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ces gestes, violence, il n'y a plus de respect de rien. C'est inadmissible, inadmissible.
Propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, une fusillade a fait cette nuit 1 mort et 4 blessés graves. Un énième règlement de compte lié au trafic de drogue a indiqué le maire de la ville et qui fait écho à une autre fusillade la même nuit qui s'est déroulée à Toulouse cette fois-ci, où un homme est mort et un autre gravement blessé au cours d'un règlement de compte. Alors comment enrayer cette hyper-violence ? Cette question, elle sera posée demain aux 7 principales têtes de liste aux européennes, réunies pour la toute première fois pour un grand jury événement spécial élection européenne. Un débat à ne pas manquer, ça sera exceptionnellement de midi à 14h sur RTL et Paris Première et à 18h sur LCP. Et puis à noter que tout à l'heure à Ajaccio, Éric Zemmour a été la cible de jets d'œufs et d'insultes. Et cela alors que le président de Reconquête faisait campagne sur un marché local. Du football avec la suite de la 32e journée de Ligue 1 et beaucoup, beaucoup d'enjeux à 2 journées seulement de la fin du championnat. Tout à l'heure, Le Havre a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant face à Strasbourg 3-1. De son côté, le Dauphin Monaco s'est imposé 4-1 face à la lanterne du championnat Clermont. Philippe Sonfourche reviendra en détail avec son équipe et toute sa bande sur ce match dans quelques instants dans On refait le match. Autre rencontre qui débute en ce moment même, Metz face à Rennes et puis à 21h, Brest recevra Nantes. Un match que vous pourrez évidemment suivre sur notre antenne dans RTL Foot à partir de 20h30. Et puis un mot de rugby également avec la cruelle défaite de Clermont face au Chambres. Sharks de Durban en demi-finale de la Challenge Cup. Match remporté au finish par les Sud-Africains, 32 à 31. Votre météo avec pour demain de la grisaille et de la pluie sur la moitié nord du pays. Des éclaircies au sud le matin, mais attention, des orages sont prévus en seconde partie de journée du sud-ouest au massif central. Du côté des températures, ça sera en légère hausse, 15 à Brest, 18 à Paris, 23 à Lyon et Toulouse et 24 à Montauban. Et puis les courses, ça se passera demain à Longchamp, départ 15h15. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 13, le 2, le 15, le 3, le 8 et le 9. L'outsider de RTL, c'est le 15, Saanen. RTL, il est 19h passé de 4 minutes. Tout de suite, on refait le match et c'est avec vous, Philippe Sanfourche.
Merci beaucoup, Rémi Jacob. On vous retrouve à 20h pour de prochaines informations.
À tout à l'heure.
RTL. 19h, 20h30, on refait le match sur RTL.
Présenté par Philippe Sanfourche.
Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTL. Ravi de vous retrouver comme chaque samedi 19h pour 4 grandes heures de direct foot puisqu'on est ensemble jusqu'à 23h. Vous en avez l'habitude, vous retrouverez à 20h30 Eric Silvestro et toute l'équipe d'RTL Foot pour vous faire vivre un Brest-Nantes qui sera important, quasi décisif en haut et en bas du tableau. Pour l'heure, place à notre rendez-vous hebdo d'analyse de débat pour disséquer dans le détail la grande et belle semaine européenne du PSG et de l'OM. Belle, on l'aurait aimé plus belle, mais en tout cas elle a été intense. L'actu foot, sur le terrain mais pas que, les vestiaires, les coulisses, les instances, l'économie, l'arbitrage, tout ce qui fait l'univers du ballon rond. Et pour en débattre, trois spécialistes à mes côtés autour de la table dont on refait le match ce soir. Dominique Sévrac, du Parisien. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Florian Gazan.
Bonsoir Philippe. Bonsoir.
On refait le match
tous.
Au quotidien, le podcast tous les jours. Vous en avez l'habitude désormais sur toutes les bonnes plateformes, sur évidemment le site internet, l'appli RTL. On va en parler en détail du podcast parce qu'il nous a inspiré en plus pour l'émission.
Ah oui.
Un laboratoire ce podcast.
Tout à fait.
Stéphane Powels, notre voix belge, la voix belge du foot globalement.
The voice.
The voice.
Raymond Goutal, c'est quand même le passage.
Voilà, qui aura aussi son regard acéré sur cette actualité.
Il y a l'OM aussi. Évidemment
qu'il y a l'OM.
Il y a l'histoire.
on va en parler en long et en large dans cette première heure. Le sommaire d'ailleurs, je vous le livre en pièces, trois jours après la défaite du PSG à Dortmund 1-0. On va essayer de comprendre pourquoi, la faute à qui ? Enrique, Mbappé, un autre. Faut-il faire sortir Gonçalo Ramos de sa prison enriquesque.
La faute à Kiki.
Et Lucas Hernandez, le pauvre blessé, par qui le remplacer pour le match retour mardi et puis globalement sur cette fin de saison. On prendra aussi des nouvelles du Borussia Dortmund qui a étrié Augsbourg 5-1. Ça y est, ils sont sur un nuage, les Allemands. On verra ça avec David Lortolari. On étudiera également le baromètre Odoxa entre les deux tours, un peu comme pour les élections. On va voir s'il y a des choses à changer pour le match retour au Parc des Princes. Le deuxième dossier, c'est une évidence, c'est l'Olympique de Marseille. Un partout face à l'Atalanta au Vélodrome. Ce ne sera pas évident, mais c'est jouable. Y a-t-il des regrets ? L'OM peut-il s'imposer à Bergame pour espérer cette finale de Ligue Europe ? Et puis en coulisses, Pablo Longoria qui semble redevenir l'homme fort du club. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Est-ce qu'il faut s'attendre aussi, pourquoi pas, à l'arrivée de Christophe Galtier qui s'exprime aujourd'hui dans l'équipe et qui ne ferme pas la porte, loin de là, à un avenir plus ou moins proche sur le banc de l'Olympique de Marseille. À 20h, on fera place au débat flash. Karine Galli nous rejoindra comme chaque semaine avec 4 questions, 45 secondes à chaque fois pour convaincre l'assistance et trancher. Pierre Sage a-t-il définitivement désingué les trophées UNFP ? L'avenir du VAR passe-t-il par la sonorisation des arbitres ou est-il tout simplement condamné, comme ça a été déjà pris comme décision par nos amis suédois ? Aurélien Tchouaméni, défenseur central au Real, et pourquoi pas en bleu ? Tiens, on va se poser la question. Et enfin, on parlera du divorce entre Reims et Will Steele. À qui la faute ? Comment en est-on arrivé là ? On est ensemble jusqu'à 20h30. On refait le match. C'est parti.
Philippe Sanfourche.
On refait le match sur RTL.
avant de se replonger en long, en large dans la semaine européenne du Paris Saint-Germain et de l'OM. Le direct, toujours, d'abord le direct avec deux hommes, l'un qui a terminé son match à Monaco, Mickaël Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Monaco qui a mis un sévère 4 buts à 1, sévère mais mérité, avec des jolis buts, à Clermont. Clermont qui pourrait presque être condamné puisque Le Havre a battu Strasbourg cet après-midi, 3 buts à 1. 8. Et du coup, Dimitri Ramelot, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Dimitri Ramelot, Metz qui peut enterrer Clermont.
Bah, Metz peut enterrer Clermont si Metz bat ce soir le Stade Rennais, et les Messins seraient inspirés de le faire parce que ça leur permettrait aussi de continuer à croire à une issue positive en fin de saison. Je m'entends en double dans le casque, c'est un petit peu compliqué, Philippe.
Bon, donc avec ça va être un match en jeu quand même
ce soir à Saint-Symphorien, on va suivre ça.
Bon, comment ça a démarré? Toujours 0-0 évidemment à Metz.
Toujours 0-0, ça fait 10 minutes qu'on joue au foot.
Très bien, on revient vers vous dès qu'il se passe quelque chose. On va surtout faire le point avec Mickaël Lefebvre, parce qu'on connaît le petit jeu des après-matchs, il faut aller très vite
surtout à Monaco,
à la zone
c'est
mix,
loin.
Voilà, il faut mettre ses baskets, il faut faire un petit footing, mais la forme de Mickaël Lefebvre devrait faire la différence.
Aucun problème.
Mika, bon, Monaco, ouais. Bon, toujours des petits soucis défensifs, ça c'est un classique, mais devant ça fonctionne quand même. Hein.
Bah oui, un doublé de Ben Yedder, un but d'Embolo qui enfin après n'avoir quasiment pas joué de la saison, et bien été titulaire et a pu marquer ce deuxième but monégasque. L'ouverture du score, c'était Minamino. Cham avait quand même égalisé effectivement pour Clermont, mais Monaco a eu peur à les deux minutes après le but, l'égalisation de Cham. L'a largement emporté dans ce match face à une équipe clermontoise qui a essayé jusqu'au bout de jouer. Ils ont même failli avoir un pénalty en toute fin de match, mais il y avait une position de hors-jeu. Mais c'est vrai que Clermont ce soir n'a plus son destin entre les mains et va devoir attendre le résultat de Metz-Rennes pour y croire ou pas à la Ligue 1 encore. Et Monaco qui conforte sa deuxième place au classement, 5 points d'avance dorénavant sur Brest, 6 sur Lille et 10 sur Nice, le 5e, ce qui veut dire que Monaco finira au minimum dans le top 4 cette saison.
Bon, vous aurez vos matchs de Ligue des Champions à Louis II, Mika.
Ah bah oui, c'est bien, le retour, ça m'a manqué un peu.
Il vaut mieux éviter le tour préliminaire quand même.
Oui, par contre, pour Monaco, oui, c'est pas des bons souvenirs.
Oui, généralement, ça se passe pas hyper bien.
Mais bon, ils sont quand même là en ballottage favorable pour cette deuxième place.
Parfait, merci beaucoup Mickaël Lefebvre qui nous a fait vibrer cette semaine au Vélodrome avec ce match et ce but de Chancel Mbemba qui vous a un petit peu abîmé les cordes vocales. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime sur RTL. Merci Mika.
Bonne soirée.
Et les réactions évidemment dans RTL Foot tout à l'heure de cette rencontre entre Monaco et Clermont. Les pauvres Clermontois qui ne sauront même pas encore quel sera leur destin lorsqu'ils vont s'exprimer au micro de l'ensemble de la presse française. Messieurs, on va pas s'attarder deux minutes, mais juste la situation de Clermont, pour vous, c'est un logique relégable ce soir.
C'est fini un petit peu, mais c'est pas fini que ce soir, Philippe. Malheureusement, ça a été une saison compliquée avec des idées de jeu très arrêtées de Pascal Gassien qui veut absolument jouer. On a vu ça parfois avec des candidats comme entraînés par Jean-Marc Furlan. Ça, c'est pas forcément ces équipes-là qui se maintiennent parce que ça nécessite, ça requiert d'autres qualités qui sont plus de l'ordre du combat, de l'énergie, du football direct. Malheureusement, jouer au foot ne permet pas de se sauver.
C'est l'équipe qui avait fait match nul au Parc des Princes.
C'est la seule équipe qui a pas
qui avait fait match nul aussi au Parc. Qui avait fait match nul aussi à...
C'est leur fait d'armes, ils n'ont pas été battus par Paris.
C'est contre.
Avec Amorillo qui a été fantastique ce jour-là.
Moi, je vais rebondir sur ce qui... Je suis d'accord avec Dominique, c'est aussi pourquoi on l'a laissé en place. C'est-à-dire que M. Gassien, moi, avec beaucoup de respect de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de ce qu'il est aussi pour le club, à un moment, et après trois mois, tu vois bien que ça ne va pas fonctionner.
Il fallait le virer, vous, c'est comme ça.
C'est lui qui est monté, donc c'est compliqué. Ouais.
Quand pendant trois mois, tu proposes rien, pas grand-chose, que tu es dans le dur, et je ne te parle pas du fait d'arme des matchs contre le Paris, tu changes de coach, oui, je pense.
Ouais. Il avait quand même une sacrée expérience aussi, il connaît le club.
Oui, mais il y a un moment, il connaît le club, j'ai un énorme respect de ce monsieur. Il y a un moment quand...
Ça se sent.
Quand il n'y a plus d'étincelles, quand il n'y a plus de... ça ne brille plus dans les yeux des joueurs.
C'est surtout comment... quelle est la méthode pour se sauver? Puisque moi, je le rattache à l'école Furlan, qui est descendu comme ça, avec trois, je crois, avec d'autres clubs, en jouant, en pratiquant un football qui tout le monde adorait. Ouais. Mais malheureusement, pour se sauver, quels sont les... On voit que Nantes mise sur Comboiré, et au Comboiré, là, alors je ne dis pas que ce n'est pas du beau football, hein, mais on sait comment il est, Antoine. On sait que c'est un meneur d'hommes, c'est un guerrier. Est-ce que c'est pas ça un peu le quand on va chercher un pompier, c'est des Pascal Duprat, c'est des
Antonetti.
Voilà, c'est des entraîneurs comme ça. Donc on sait bien que pratiquer du football en général, malheureusement, parce que ça veut dire que le football, il y a pas de justice, mais c'est un peu comme ça en général. Pratiquer du beau jeu, ça suffit pas, ça suffit.
Mais pour te sauver, il faut aller au combat. Hein.
Ben voilà.
Donc, ouais, mais bon, regardez, Lucas Elsner, on lui a un peu reproché ça par le passé. Et là, il est en train de sauver l'eau.
Ouais, mais Ricrac, hein, quand même. Ricrac est.
Langazan.
Ça se joue vraiment à pas grand chose. L'œuvre, pour l'instant, ils sont barragistes. Rien ne dit d'ailleurs qu'ils vont se maintenir parce qu'il faut le gagner, le barrage. Voilà, Lucas Elsner, oui, ça joue du beau football comme à l'époque d'Amiens. Mais il y a un moment donné aussi, ils ont un peu verrouillé les Havrais. Et il faut savoir aussi, à un moment donné, arrêter de jouer au football et déjà penser à pas prendre de but. Parce que
vous êtes déprimant. Il faut arrêter de jouer au football alors pour se maintenir.
Bah, vous le préférez jouer au foot et aller en Ligue 2 ou vous maintenir en Ligue 1 ? À un moment donné, il faut savoir aussi arrêter de jouer au football et compter les points. Quoi.
D'ailleurs, Metz, c'était. On peut parler de tout ce qu'on veut sur Bologne, mais c'était quand même très marrant. En première partie de saison, ils ont proposé, je trouve, moi je les ai commentés quelques fois, de la qualité. Il y avait des jeunes, c'était offensif. Et en fait, on lui a reproché de Bologne de plus faire du Bologne. Parce que Bologne, en fait, sa marque de fabrique, c'est aussi ça, c'est de bétonner, c'est de pouvoir fermer et tout. Et là, maintenant, il refait du Bologne, il gagne des matchs.
Alors, on en revient un petit peu à ce débat sur le passage à 18 clubs en Ligue 1. C'est-à-dire que maintenant, en fait, tout le monde a peur de descendre. Et au final, dès que tu es en dessous de la 10e place, bah, faut verrouiller.
Il n'y a plus de ventre mou maintenant.
Je pense que c'est l'apanage des 10 premiers de bien jouer au foot. On attend ça déjà des clubs historiques, des Lyon, des Monaco, des Paris, des Marseille, des Lille. C'est eux qui doivent bien jouer au foot et c'est eux qui sont le plus scrutés. Et quand ils jouent pas bien au foot, justement, moi l'OM, là on va en parler en Coupe d'Europe, mais cette saison en championnat, que ce soit sous Marcelinho, que ce soit sous Gasset, que ce soit qui était entre temps l'insupportable Gattuso, on en a pas eu vraiment pour notre argent, même si on payait pas beaucoup.
Ah oui.
Donc c'est moi ces équipes là qui me dérangent quand elles ne jouent pas. Un relégable, une équipe qui essaye de se sauver, je vais jamais lui en vouloir de bétonner.
Non, mais par contre, les supporters qui vont au match tous les week-ends, ils ont peut-être envie de voir autre chose que simplement une équipe
qui
met le bus devant la cage pendant 34 journées.
Je connais des supporters de Metz qui sont des passionnés, ça fait 30 ans qu'ils vont au club. Et comme il dit Dominique, c'est quoi l'histoire ? Rester en Ligue 1.
Est-ce qu'ils préfèrent le bus contre Paris ou du beau jeu contre Niort ?
Voilà. Ils préfèrent rester en D1.
Ouais, mais bon, quand ils jouent contre Le Havre ou Lorient, ils ont le droit de jouer au football aussi.
Hein, et quand t'as pas les capacités et que t'as pas les qualités.
Bon, après, ça dépend aussi à quel moment de la saison intervient ce match. Parce que si ce Metz-Lorient est en milieu de saison, ça joue. S'il est en fin de saison et que tu joues, tu vas rater des points, c'est plus le même match. Quoi.
Bon, en tout cas, Clermont est quasiment dans la charrette après cette défaite 4-1 à Monaco. Le Havre qui a battu Strasbourg, ça sent bon puisqu'ils sont 14e. Ils sont même passés devant Nantes, pour qui ça va être chaud. Metz pour l'instant barragiste. Metz toujours 0-0. On ira refaire un petit tour après une page de publicité, voir Dimitri Ramelot pour en savoir plus. Et ensuite, on se penchera de manière très sérieuse, en détail, sur les deux matchs de la semaine. Oula. La défaite du PSG à Dortmund et le match nul de l'OM face à l'Atalanta. Les deux clubs français sont toujours en course. Et on va vibrer cette semaine en direct, en intégralité, les deux matchs sur RTL pour espérer nos deux clubs en finale de Coupe d'Europe. A tout de suite.
On refait le match avec Philippe Sanfourche. On en parle.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 27 au 31 mai. On en parle dans un instant avec Jean-Michel Pinel, chef d'entreprise en Bretagne.
Ce soir, dès 21h, sur M6, ne manquez pas la finale tant attendue de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. Sur W9, la petite histoire de France. Et si on apprenait en riant ? Sur Cister, embarquez pour l'Égypte antique à la recherche d'une relique secrète dans la malédiction du pharaon. Bonne soirée sur les chaînes du groupe M6.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité et durabilité. Votez pour l'avenir, achetez Akena.
Je peux pas, je suis déjà reine.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Tout est prêt pour votre déménagement, Linda ?
Non, Cerise, j'ai oublié l'assurance habitation. Avec mon budget, je peux pas payer cher et j'ai peur de pas être bien couverte.
Chez Groupama, vous pouvez économiser en moyenne 149 euros sur votre contrat habitation et profiter des mêmes garanties.
Vous savez me parler, Cerise.
Nos conseillers aussi, et ils sont disponibles en agence à moins de 15 minutes de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
RTL.
On refait le match
avec Philippe Sanfourche.
On refait le match jusqu'à 20h30 avec Dominique Sévrac, Florian
Gazan
et Stéphane Powell, Karine Galli également à partir de 20h. Mais tout de suite, c'est le direct, c'est le grand foot, c'est le feu à Metz avec l'ouverture du score pour les Lorrains face à Rennes, Dimitri Ramelot.
Georges Mikotadze qui marque ce but incroyable d'un lob. Il est lancé sur le côté droit. Il est sur la ligne latérale de la surface de réparation. Il voit Steve Mandanda avancer. Il lobe le gardien rennais, le ballon qui vient mourir dans le petit filet après 17 minutes ici à Saint-Symphorien. Le football club de Metz mène 1-0 et donc virtuellement pour l'instant effectivement la seule certitude virtuelle c'est que Clermont est relégué.
Effectivement, en l'état, ouais. Et pauvre Clermontois.
Bon but, Philippe.
Que Metz n'est plus barragiste.
Le but, mais énorme, énorme, c'était un moment-là, avec l'expérience.
Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il s'avance un petit peu, en fait.
Alors, il ouvre tous les angles possibles.
Il a aucune raison de s'avancer, là.
Non.
Complètement sur le côté, Mikotadze.
Soit il va, soit il va pas, mais pas.
Bah, c'est ça, ouais.
Pas entre les deux, quoi.
Mais elle est où, à part aux phrases?
C'est Steve Mandanda, quand même. C'est pas, pas un gamin.
Mais c'est à l'image, c'est à l'image de l'équipe. Cette équipe, ça va pas. Je sais, on vous avait vendu du rêve avec Monsieur Stéphane. J'assume, moi et Karine d'ailleurs, mais ça a été quelques matchs.
C'est pas Julien Stéphane qui est dans la cage là quand même.
Mais Julien Stéphane, je pense qu'il trouve pas toujours les clés non plus. Moi, ça va vous faire rire, hein, mais j'écoute les supporters et mon beau-père, il est supporter de Rennes. Il est breton.
Vous le savez.
Et il me dit, tu sais le problème, non ? Ils sont trop bien en fait. Ils sont trop bien. Ils se font pas violence. Ils sont bien payés. Ils ont des belles installations. On leur dit rien.
Et un petit PSG quoi.
Ah, pire, ils jouent comme des touristes, sauf que tu t'appelles Rennes.
Ils ont pas de pression.
Et t'as pas d'âme comme Brest.
À part dans les bars.
T'as pas, Brest, ils y vont, ils ont faim.
Ils ont pas le choix.
Non, mais ils y vont.
Voilà. Ces dernières saisons, on avait vu quand même une amélioration à ce niveau-là.
Ça allait mieux, il y a 2-3 ans.
Un petit peu plus excitant.
Ça fait un an que c'est du grand n'importe quoi.
Bon, non, en tout cas, ils sont un petit peu, c'est effectivement, en roue libre sur cette fin de saison. Et c'est vrai que la victoire de Brest, notamment chez eux, dans le derby breton, leur a mis un sacré coup sur le casque. Allez, 19h20, dans Refait le match. On va ouvrir désormais la grande page Coupe d'Europe, Ligue des Champions, avec ce retour sur ce match aller demi-finale de Ligue des Champions entre Dortmund et le Paris Saint-Germain mardi soir sur RTL. C'était comme ça.
On se dit que c'est notre année, en vrai. On a eu que des équipes, on va dire, à notre portée. Normalement, ça peut le faire et ça peut être notre année.
Et c'est parti à l'instant même pour cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Ballon dans les pieds des Parisiens.
Pour Füllkrug, il est pas en position de hors-jeu, il va contrôler. Füllkrug, la surface de réparation, la femme, le but de signer Niklas Füllkrug avec la défense du Paris Saint-Germain qui a été trop attentiste.
Je pense qu'on a pris un but aussi dans un détail qu'on avait travaillé. Il fallait pas le prendre un but comme ça, la profondeur. Et c'est des détails qui font une différence dans une demi-finale.
Colomani va entrer, on vient de l'appeler.
Ouais, il a été appelé.
Ramos,
il a été énorme ce dernier match et le gars, il va encore rester sur le banc.
Et il met Colomani qui est un fantôme.
Ici, c'est toujours difficile de jouer. Il y a les supporters incroyables. Nous aussi, mardi à Parc des Princes, on a sûrement des supporters incroyables. C'est encore tout ouvert.
Voilà, ça vous...
C'est Gladiator.
Hein, voilà, c'est, ouais,
c'est sympa.
Gladiator, Star Wars, et en tout cas, c'est une super production RTL de grande qualité. On a vécu une soirée un peu frustrante. Hein.
Je suis énervé, moi, Philippe.
Énervé, Dominique.
Tout est aligné, comme on dit, depuis le début de saison, pour le Paris Saint-Germain, avec ce tirage au sort, ses adversaires abordables comme la Real Sociedad, ce Barcelone qui n'est plus le Barça d'antan, ce Dortmund qui est cinquième du championnat allemand, c'est même pas le Bayern, même le Bayern de cette année est prenable. Donc je suis très très énervé parce que j'ai le sentiment que le Paris Saint-Germain prend pas toujours la mesure de l'événement et encore une fois, j'ai vu une première période indigne. Qui est pourtant, ils avaient pu regarder la veille tranquillement dans leur canapé un Bayern-Real Madrid où on a vu un vrai match de Ligue des Champions. Là, j'ai vaguement le sentiment que c'était de la Ligue Europa, de la mauvaise Ligue Europa pendant au moins 45 minutes. Et c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Paris Saint-Germain, c'est un club fascinant à observer, à analyser, à décortiquer. Mais là, c'est très très agaçant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se qualifier mardi. Ils sont pour moi largement supérieurs à Dortmund. Encore faut-il.
C'est là la frustration.
Le prouver. Mais c'est aussi de rater un match. Il y en a deux. Alors certes, il y en a deux. Mais c'est de se dire qu'on peut se qualifier qu'avec un seul match. Moi, ça m'énerve. Je peut-être qu'ils vont être brillants mardi, renverser tout, gagner 4-2, 4-1, mettre 3 buts dans 20 minutes, le parc sera en lévitation. Ok, c'est super, mais pourquoi tu fais jamais deux matchs?
Est-ce que c'est pas une petite forme de suffisance? On va se poser la question avant ça, détour par Saint-Symphorien, parce que ça rebondit, ça réagit côté breton.
Alors pas tout à fait, parce qu'on est en plein visionnage des écrans par les arbitres du VAR, mais effectivement il y a eu un but marqué par le Stade Rennais qui insistait quand même depuis plusieurs minutes sur la cage du Football Club de Metz. Le but accordé, un but partout, voilà. C'est Guiri qui a frappé le dernier, mais le ballon qui a été ralenti et quelque part détourné dans son propre but par Christophe Herel, le défenseur du Football Club de Metz. Et après 23 minutes ici à Saint-Symphorien, un but partout entre le FC Metz et le Stade Rennais.
Bon, on suit ça, petit sursis temporaire pour nos amis clermontois. On le rappelle qu'ils seront condamnés si Metz l'emporte. Pour l'instant, donc, un partout. J'ai noté que Dominique Sévrac, qui était, on avait la chance tous deux d'être collègue au stade.
Voisin.
Je souscris quand même pas mal au discours de Dominique. Ouais. J'ai eu un petit peu ce sentiment également. Messieurs Gazan et Powels, comment est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez la même frustration? Parce que il y a plusieurs lectures. Par exemple, je lisais l'analyse de Claude Puel au lendemain dans les colonnes de l'équipe, qui disait finalement les Parisiens, ils sont très bien rentrés dans la rencontre. Ils avaient un petit peu tout cadenassé. Ouais. Tout était très pensé. En fait, ils avaient posé le jeu. Simplement, derrière, lorsqu'ils ont pris le but, là, ils se sont un petit peu déconcentrés. Ils ont perdu finalement le fil de la rencontre. Donc en fait, il y a différentes lectures.
Alors la lecture, enfin moi je n'aime pas la suffisance. Et je suis désolé de dire ça. Et quand je parle de suffisance, je ne vous parle pas de tous les joueurs. Je parle d'un coach qui, à un moment, il a ses idées et il s'obstine. Il s'obstine avec des trucs que nous, on ne comprend pas. Et même si tu n'es pas coach, même si tu n'es pas un grand connaisseur de football, tu dis, mais pourquoi? On parlait tout à l'heure de Ramos. Pourquoi Ramos ne rentre pas? Pourquoi Colomoni, qui n'en touche pas une, il fait rentrer? Il s'obstine. Alors, il y a des choix tactiques, je sais.
Ça, c'est la fin du match.
Non, mais c'est la fin du match. Mais alors, dans l'esprit,
départ, pour le coup,
non, mais
là,
dans l'esprit, c'est la suffisance.
Classique.
C'est-à-dire que c'est une espèce de... D'ailleurs, Gilles, notre copain avait dit à l'antenne il y a une semaine, attention, les Allemands, ils ne sont pas forts, c'est des plots. Mais à force que tout le monde pense comme ça, c'est qu'à un moment, tu vas jouer là-bas en disant ils ne sont pas forts, hein, le Borussia. Mais comme
Gilles Verdez, qui a pris
il était un peu fort.
Mais j'ai déjà dit des conneries aussi, c'est le football. Non, mais je rejoins Dominique, ils ne font jamais deux matchs. Ils sont incapables de faire une fois deux matchs en disant « Ouais, ils sont forts ». Parce que là, Florent, même si moi, je pense qu'ils vont se qualifier au match retour, je le pense vraiment. Mais,
ouais, mais il faudra le jouer le match, hein, quand même.
Il va falloir le jouer. Mais là, t'as été en suffisance. Si t'avais appuyé sur le champignon, si t'avais joué juste, tu leur en mettais trois, on n'en parlait plus.
Mais bon, après,
et Kylian Mbappé, on en parle même pas.
Après, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Le deuxième mi-temps, les poteaux, etc. On va pas refaire le match. Donc là, ils peuvent faire un partout.
Voilà. Mais là, pour ça, quand même.
Mais,
on refait le match.
Voilà. Mais je pense que le problème, c'est que en début de match, effectivement, ils attaquent le match tranquillou parce que c'est un match aller. Je pense quand même que dans leur tête, vu les événements des tours précédents, ils se disent de toute façon, il y a un match retour et que mine de rien, ils ne l'attaquent pas de la même manière. Ils l'attaquent tranquillement. Au lieu d'essayer directement d'aller faire mal à Dortmund, ils y vont tranquillou. Après, il y a le but. Il y a le but aussi et la blessure de Lucas Hernandez qui est importante parce que mine de rien, cette équipe, elle est quand même très jeune. Il y a beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué à ce niveau, des ARM, etc. Même des Vitinha, tu les mets dans un stade, une demi-finale Ligue des Champions à Dortmund, dans un stade, il faut quand même le caractère de le gérer.
Et tu perds. Non mais tu joues à Paris.
Oui. Non mais tu perds. Oui mais tu perds. Non mais d'accord. Mais tu perds Hernandez qui est quand même qui fait partie des joueurs de caractère de Paris. Donc déjà pour réagir, tu perds un ingrédient qui peut t'aider. Et donc finalement, tu te rends compte, les Allemands ils ont marqué, donc forcément il y a une forme d'euphorie. Et là je pense qu'ils ont été surpris parce que forcément ils s'attendaient pas à ce que les Allemands avec cette euphorie puissent jouer mieux. Aussi bien que ça. Et là, je pense qu'ils ont été un peu pris de court et ils ont eu du mal à réagir parce que cette équipe, elle manque un peu de caractère. Elle a manqué de beaucoup de choses. On va parler du manque d'engagement.
Et de la lenteur derrière.
Oui, puis du manque d'engagement, du manque d'envie. C'est vrai que tu parlais du match du Bayern et du Real, mais quand tu vois comme ils se dépouillent, les mecs des deux équipes, et quand tu vois la prestation parisienne à ce niveau-là, tu te dis, effectivement...
T'as des mecs qui sont pas violents, Colomoni, c'est un scandale.
Non, mais pas que Colomoni, mais il y en a plein,
c'est un scandale.
Il y en a plein qui sont pas au niveau de l'engagement.
Et Mbappé Puel, on en parle.
Attends, j'ai beaucoup de respect pour Claude Puel, mais moi, ma frustration, elle est aussi à la suite de discussions avec des gens en interne, proches du staff, qui sont complètement abasourdis par ce qu'ils ont vu et qui, eux, trouvent que la première période est indigne. Donc moi, je veux bien que Claude ait cette analyse-là. Il connaît mieux le football que moi. Il a des diplômes, il est très fort, il a une superbe carrière. Mais je suis pas du tout d'accord avec lui. Le PSG n'est pas bien rentré dans ce match et le staff considère que les joueurs ont fait n'importe quoi pendant 45 minutes.
Et le staff, ils se mettent pas en question.
C'est important parce que ça veut dire.
Le staff est très énervé parce qu'il a vu pendant 45 minutes. C'est pas du tout ce qui était prévu. C'est pas du tout les consignes. C'est pas du tout un attentisme et on maîtrise, on cadenasse. C'était, on leur rentre dedans pour faire vite. C'est pas comme ça que c'est formulé, évidemment. On y va, on appuie, on essaye de mener 2-0 à la mi-temps, de gagner ce match.
Fallait leur faire mal, quoi. Aller au Mastic, ils l'ont pas fait.
On part, on est tranquille, on a deux buts d'avance et on gérera le deuxième manche en essayant de la gagner pareil, 3-1. Vous faites 3-1. Bon, bah, vous gagnez 6-2 sur l'ensemble des deux matchs, vous êtes tranquille, vous êtes en finale et tout le monde est content. Là, il y a une espèce de peur sur la ville. On se dit mardi, quel PSG on va avoir? Est-ce qu'ils vont réussir à mettre deux buts d'écart à cette équipe-là? Parce que bon.
T'imagines que Marquinhos est ton meilleur joueur sur ce match? Faut quand même se poser des bonnes questions.
C'est lui qui est pas mal.
Heureusement,
le capitaine, le meilleur joueur,
c'est le capitaine.
Il est fautif sur le but. Hein.
On est d'accord. Mais c'est le capitaine qui monte un état d'esprit irréprochable. Qui a quel âge, monsieur Marquinhos?
30 ans.
Non, il est plus âgé que ça.
Non, 30 ans.
Il y a 30 ans. Ouais. Et c'est lui qui est le meilleur sur le terrain. Enfin, c'est hallucinant.
Il est capitaine, il est exemplaire. Pour le coup, lui, il l'a été.
Ah, c'est plus Kylian Mbappé qui est capitaine. C'est changé, ça. Parce que Kylian Mbappé, on peut en parler.
Ça a toujours été Marquinhos.
Ouais, mais on peut en parler quand même de.
Ah, il veut absolument qu'on parle de Kylian.
Ben, on va en parler, forcément.
T'as pas le droit.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner une petite page de publicité. Et puis ensuite, on va parler aussi des Allemands. Parce que vous me parlez que de Paris, là. On a l'impression qu'il n'y a pas d'adversaire, en face.
Ah non,
il y a un adversaire.
C'est pas mal.
L'adversaire, il a gagné 5-1 encore en Bundesliga cet après-midi.
Avec l'équipe
David
B.
David Lortolari.
Restez groupés.
Notre voix allemande va pouvoir nous en dire un peu plus. À tout de suite.
On refait le match. Avec Philippe Sanfourche.
T'es qui, toi ?
Je suis Blue.
Blue et compagnie.
Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels ?
Le film événement pour toute la famille.
J'ai vraiment adoré.
On rigole.
Très émouvant, très touchant.
Il y a de l'amour.
Retour en enfance.
Papa, maman, les enfants, tout le monde.
Avec Ryan Reynolds et les voix de José Garcia et Mylène Farmer.
Ça fait du bien.
Blue et compagnie, le 8 mai au cinéma.
Ah ben, faut aller le voir, hein.
Avec RTL.
RTL.
Anthony Martin sur RTL.
Laissez-vous tenter.
La romancière Virginie Grimaldi, une des plus lues en France, n'en finit pas de surprendre. Elle se confie en tête à tête. Les secrets de la toile monumentale d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Ce tableau vient d'être restauré et les révélations sont nombreuses. Et puis quelques jours après sa disparition, hommage à l'écrivain américain Paul Auster. Il y a 5 ans, il nous avait ouvert les portes de son bureau, là où il écrivait, chez lui, à New York. Laissez-vous tenter, c'est chaque dimanche à 9h15. Alors,
laissez-vous tenter.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Bonjour, c'est Natacha Calestrémé. Et si le bonheur, l'épanouissement, la sérénité ne tenaient qu'à une chose ? Trouver votre place. Dans mon livre, je vous propose 22 protocoles concrets pour être enfin vous-même.
Trouver ma place, de Natacha Calestrémé, le livre phénomène enfin en poche chez HarperCollins Poche.
Philippe Sanfourche.
On refait le match sur RTL.
On refait le match et on refait Dortmund-PSG avec cette défaite 0-1 en Allemagne ce mardi en demi-finale aller de Ligue des Champions. Cette équipe de Dortmund qui, contrairement au club français, au PSG, l'OM, n'est pas protégée par sa Ligue pour rester tranquillement au chaud pendant le week-end à se mettre une petite couverture sur les genoux devant la cheminée.
C'est pas
mais
bien ce que vous faites.
Retourne au charbon, à l'usine et surtout sur le terrain avec un match contre Augsbourg gagné brillamment 5-1. David Lortolari nous rejoint, notre voix allemande dans le Conseil de l'Europe, dans RTL Foot tous les vendredis. Bonsoir David.
Guten Abend.
Servus Philippe. Danke. Bonsoir à tous.
Bon, alors, ils sont en pleine euphorie, nos amis du Borussia, là. Ils ont écrasé Augsbourg 5-1.
Oui, je pense que Philippe, tu as raison d'employer ce terme d'euphorie. On a l'impression qu'un déclic a été trouvé quand même sur ce match plein contre Paris Saint-Germain, où les joueurs de Dortmund ont montré ce qu'ils savaient faire. L'équipe a été renouvelée à 100% en ce qui concerne les joueurs de champ. Aujourd'hui, il n'y avait pas un seul titulaire du match contre Paris qui était présent au coup d'envoi. Aujourd'hui, toute l'équipe avait été mise sur le banc ou au repos. Seul le gardien suisse Kobel était présent dans les cages. Et Dortmund a maîtrisé, contrôlé, parfois laisser le ballon à son adversaire. Augsbourg, c'est milieu de tableau de Bundesliga, donc c'est une équipe qui peut être dangereuse, mais qui n'est pas non plus une grosse écurie et une grosse machine à tuer l'adversaire. Mais c'était un bon test, une bonne préparation. C'est ce que la presse allemande convient ce soir à l'unanimité, c'est-à-dire que c'était la préparation idéale. Des joueurs au repos, un score favorable. Moukoko, qui était entré, souvenez-vous, en fin de match contre Paris, qui marque deux buts. Marco Reus, qui a annoncé sa fin de carrière à Dortmund vendredi, donc hier, qui aussi est un passeur et un buteur. Edin Terzic se retrouve donc avec quelques solutions alternatives intéressantes s'il y avait un combat incertain contre Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que ce soir Dortmund c'est tout bénef par rapport à ce match de l'après-midi.
Ouais, tous les voyants sont au vert. On rappelle aussi que grâce à leur victoire sur le PSG, au gré des points UEFA glanés, ils ont assuré leur place en Ligue des Champions, puisque la 5e place de Bundesliga devient qualificative pour la Ligue des Champions. Donc tous les voyants verts sont au vert pour Dortmund. Est-ce que du coup David, ça va changer un petit peu la vision au sein du club, que ce soit du côté de Terzic, l'entraîneur, ou même globalement de tout l'environnement, de la presse qui n'a pas arrêté de dire c'est le PSG qui est favori, le PSG largement favori, nous on est là en outsider, si on passe c'est un exploit. Là, est-ce que ça change un petit peu la vision des choses avec ce match aller et avec toute cette situation favorable?
Oui, je pense que ça donne quand même un peu plus d'autorité, un peu plus de... Alors, je parlerai pas de sérénité, mais il y a une forme de confiance en soi qui s'est installée. Je présume que l'équipe qui démarrera contre Paris Saint-Germain sera très proche, peut-être un joueur près, sera très proche de celle que vous avez vue au match aller. Peut-être que Daniel Malen, s'il est en pleine possession de ses moyens physiques, sera aligné pour mettre un peu plus de danger offensivement, mais on retrouvera le milieu de terrain avec Sabitzer, avec Emre Can, avec Julian Brandt. Tous ces joueurs-là ont été ménagés, ont disputé 20, 25, 30 minutes aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, encore une fois, il y a eu un déclic contre Paris parce que jusque-là, la position de l'entraîneur était quand même très fragilisée. On a fait venir deux adjoints cet hiver, Nuri Sahin et Sven Bender pour l'encadrer, pour le renforcer. Il était quand même dans une position assez fragile. Et là, la réussite contre Paris a donné, oui, un élan supplémentaire, c'est très clair. Et puis voilà, je pense que Marco Reus, en plus, ayant annoncé son départ, a provoqué une espèce de standing ovation permanente autour de Dortmund. Et on a l'impression que le club est un peu dans l'immunité ces derniers jours. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est une force? Ça, on ne le saura évidemment qu'à l'occasion du match retour.
Effectivement, merci beaucoup David Lartolari pour toutes ces précisions sur l'état de forme de Dortmund qui s'est donc imposé 5 buts à 1 cet après-midi. Stéphane Powell, on l'a un peu sous-estimé cette équipe.
Alors on l'a un peu sous-estimé, mais moi ce que j'ai pas de réponse de ce que je viens d'entendre, c'est qu'on nous parle d'euphorie et que c'est bien et que c'est con. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir jouer comment à Paris? Parce que cette équipe qu'on a vue.
Ça
c'est une grosse tête. Hein, mais vraiment, voilà, c'est Florian. Ils vont jouer comment? Ils vont venir bétonner? Ils savent le faire ou pas? Ils vont venir faire le jeu? Ils vont se découvrir? Ils vont ramasser? Parce qu'on parle de l'euphorie. C'est bien de l'euphorie. Hein.
Le match aller de phase de poule, ils sont venus pour bétonner avec une défense à 5. Ils ont perdu 2-0. 2-0, ouais. Ils sont éliminés mardi soir. S'ils viennent jouer, ils vont se prendre des contres supersoniques. Donc ta question, elle a du sens parce qu'ils doivent se poser des questions. Mais je suis très content pour Edin Terzic qui a été encadré, comme l'a dit David, et que tout se passe bien pour lui. Mais il faut que, peut-être que Dortmund ne le sait pas, mais ils sont pas tombés sur le vrai PSG. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est énervé. C'est que tous ceux qui sont un peu amoureux du Paris Saint-Germain ou qui veulent qu'il y ait un club français en finale de la Ligue des Champions, on sait qu'on n'a pas vu le vrai Paris Saint-Germain mercredi soir. Donc s'ils pensent que tout le monde pense en Allemagne que c'est grâce à Dortmund, que leur plan de jeu était formidable, qu'ils ont été géniaux, bah, qu'ils n'oublient jamais quand même qu'ils n'avaient pas le vrai PSG et que sur deux matchs, il est possible qu'ils en voient peut-être pendant 45 minutes ou une heure et demie le vrai et que le vrai, il est sans doute un peu trop fort pour eux.
Oui, effectivement, ouais. Ce qu'on a vu sur un quart d'heure quand le PSG s'est réveillé, ils ont tout de suite eu du mal, Florent Gazan, les Allemands.
Oui, quand Paris a décidé, s'est rendu compte qu'ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions et que voilà, qu'il fallait un minimum faire des choses en termes de justesse technique, d'engagement, d'envie, évidemment, ils les ont secoués. Mais pour autant, ils n'ont pas marqué. Donc, même s'il y a eu les poteaux, ils savent défendre les Allemands, ils ont des joueurs de qualité. On s'est souvent basé sur le match de poule, le fameux 1-1 à Dortmund, mais il n'y avait pas Sabitzer, qui est un joueur hyper important, qui apporte beaucoup à cette équipe, qui est le régulateur. Et franchement, je pense qu'on les a un peu sous-estimés. La bonne nouvelle pour moi, justement, qu'ils aient gagné 5-1, qu'ils aient gagné le match aller, c'est qu'ils vont peut-être être d'une forme d'euphorie. Et les Parisiens vont se dire, ah, il faut quand même les prendre peut-être pas autant à la légère
pour les entreprises. Pour être mesuré, Philippe va en parler après aussi, le Paris Saint-Germain, défensivement, il y avait quand même des choses inquiétantes. Quand même.
Oui, mais depuis le début de la saison.
Mais ça fait partie de l'ADN du PSG cette saison. Et je pense qu'il faudra
s'en accommoder. Tu veux gagner la Champions League
jusqu'à la fin.
Donc c'est normal.
Déjà arrivé. Écoute, on veut déjà aller en finale. Ce serait déjà pas mal.
Oui, voilà.
D'accord. Qu'est-ce qu'en pensent les Français, les amateurs de foot et les supporters du Paris Saint-Germain? On s'est posé la question, forcément, puisqu'on a notre sondage, notre baromètre Odoxa pour Winamax et RTL chaque semaine. Quand c'est comme ça, entre le match aller et le match retour, c'est encore mieux. Erwan Lestran nous rejoint pour pouvoir décrypter ce sondage de la semaine. Bonsoir, Erwan.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
J'ai l'impression que les Français sont assez d'accord globalement avec les analyses qu'on a pu entendre autour de la table depuis le début de l'émission. On a plus l'impression que c'est le Paris Saint-Germain qui n'a pas joué cette demi-finale plutôt que le Borussia qui l'a écrasé.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une évolution de l'opinion, hein, parce que dans notre sondage qu'on avait fait il y a 15 jours après la qualification face à Barcelone, les amateurs de football voyaient le PSG enjamber Dortmund et gagner la finale de la Ligue des Champions. On peut imaginer qu'ils sont tombés de haut mercredi soir, mais c'est vrai que quand on leur demande à quoi est due cette défaite du PSG, pour 67% des amateurs de football, c'est au fait que le PSG n'a pas été à la hauteur d'une demi-finale de la Ligue des Champions. Ils n'ont pas été impressionnés par Dortmund parce qu'ils sont 31% uniquement à nous dire que la défaite est due à la supériorité de l'équipe du Borussia. Donc une déception du PSG qui n'a pas été au niveau.
Et alors les joueurs qui sont fustigés, parce que là on va rentrer dans le détail.
Oui, alors ça, on a demandé parmi les joueurs du PSG lesquels ont été les plus décevants lors de ce match aller. Et celui qui arrive loin en tête, c'est Kylian Mbappé, cité par 57% des amateurs de football, 45% des supporters du PSG. Peut-être aussi parce qu'il fait partie des joueurs dont on attend qu'ils fassent basculer ce type de match à eux tout seuls. Celui qui est cité en deuxième position, c'est Ousmane Dembélé. 26% chez les amateurs de football, 26% chez les supporters du PSG. C'était l'artisan de la qualification face à Barcelone. Les attentes étaient élevées également. Et le troisième sur le podium des joueurs les plus décevants, c'est Nuno Mendes. 23% de citation chez les amateurs de football, 24% chez les supporters du PSG. À signaler que Fabian Ruiz arrive aussi à un niveau important.
Alors, messieurs, dans le désordre, quel est l'homme qui vous a le plus déçu, dont vous attendiez le plus?
Kylian Mbappé. Mais on va pas... On n'a pas le temps, mais on peut expliquer pourquoi il en est là maintenant. C'est pas que de sa faute. On attend plus de lui. Il est tellement. Mais moi je veux pas l'assassiner parce que peut-être qu'au match retour, comme disait Dominique, s'il va avoir 30 minutes de folie, il est capable de t'en mettre deux. Donc, et tout le monde va dire c'est Mbappé. Mais là, il était décevant. Mais je pense qu'il y a un problème. Je vais pas dire un problème de relationnel. Je pense qu'il y a une lassitude. Tout ce qui s'est passé depuis qu'il a dit qu'il allait partir, il y a une ambiance qui est plus bonne. On l'a mis sur le
banc. Ça se monte et ça se démonte.
Oui, mais non, c'est pas que
après Barcelone. Là, on a dit qu'il avait réussi à surmonter tout cela.
Pour moi, il avait
Est-ce que c'est pas plutôt un problème sur le terrain? C'est-à-dire que il doit être neuf.
Mais c'est les deux. Pour bien jouer au football, il faut être bien dans sa tête. Pour n'importe quel joueur au monde. Et lui, il n'est pas bien dans sa tête, mais enfin, ça se voit quand même.
Enfin, c'est le deuxième meilleur buteur européen, il a 43 buts.
Non, mais il n'est pas bien.
Tous les joueurs qui sont
bien
à 43 buts par saison ne sont pas bien dans leur
tête. Le mec,
tête.
Il est frustré. Mais
il joue moins que les années précédentes, puisque désormais, il est remplacé en Ligue 1, où il ne débute pas en Ligue 1. Non, moi, je pense que comme Philippe, il y a un problème de poste. Kylian Mbappé, je le connais depuis qu'il est à Monaco. Je l'ai vu dans une attaque à 2 avec Falcao. Je l'ai vu à 3 en équipe de France, à 2 avec Giroud ou avec Griezmann. Je l'ai vu au Paris Saint-Germain avec Cavani, avec Neymar, je l'ai vu avec.
Faut le mettre sur le côté, c'est ça qui veut
dire. Je crois que de tout ce que j'ai vu, après avoir vu 350 matchs de Kylian Mbappé, c'est son poste préférentiel, c'est sur la gauche, avec Ousmane Dembélé et X au centre.
Et donc c'est Enrique qui est mauvais alors, Dominique?
Je ne sais pas, mais.
Si
Je ne sais pas, puisque la saison a commencé, Kylian Mbappé était à gauche. Et puis tout d'un coup, à partir du match au Havre, celui qu'ils ont gagné à 10 contre 11, puisque Gianluigi Donnarumma s'est fait expulser, Kylian Mbappé est rentré dans l'axe. Mais c'était aussi l'avènement de Barcola. Barcola, j'y croyais pas au début. Puis finalement, force est de constater que Bradley Barcola s'est installé à gauche de manière incroyable, qui va sans doute l'amener jusqu'à l'Euro en Allemagne.
Là, il fait un match affreux quand même.
Il arrive. Ouais.
Lui aussi, il a été noyé par l'enjeu.
Mais bon, ça peut arriver. J'en attends moins de Bradley Barcola que de Kylian Mbappé.
Parce que la différence, c'est que Kylian Mbappé, il nous annonce toujours, vous allez voir ce que vous allez voir, jusqu'au bout, je me battrai, je donnerai tout jusqu'à la fin de mon contrat. Enfin, il nous avait fait Il nous avait fait la même en équipe de France. Après le premier match, il est encore plus horrible sur le deuxième. C'est qu'à un moment donné, quand tu annonces la couleur, quand tu dis, vous allez voir ce que vous allez voir, montre-le-nous ce qu'on va voir. Mais montre-le-nous sur le terrain. Et une attitude qui nous laisse à croire, tu peux passer à côté de ton match, pas être dans un bon jour. Mais au moins, mets les ingrédients. Parce que là, on a retrouvé le Kiki qui baisse la tête, qui est dans son coin, qui essaye de jouer que pour lui, qui n'est pas dans le collectif, qui ne fait pas les efforts défensifs.
Ah, moi, je l'ai trouvé trop collectif.
Ouais,
il y a plein de ballons qu'il met en retrait, où il n'y va pas tout seul.
Ouais, mais c'est je ne pense pas que c'était une volonté d'être collectif. Je ne sais pas, il était un peu...
Je dirais qu'il n'avait pas les cannes.
Non, mais dans l'investissement. Mais Dominique, dans l'investissement, tu es le joueur majeur de l'équipe. Tu es le clutch player, comme on dit en basket. C'est-à-dire, quand tu vois le match de Vinicius la veille, Vinicius, il défend comme un chien. Il marque deux buts, lui aussi.
Mais Vinicius, il ne s'en va pas de son club.
Mais c'est pas.
Mais si, Florian, tu peux faire ça comme tu veux. Le mec,
il est en demi-finale de Ligue des Champions, il peut gagner la première Ligue des Champions de sa vie. Donc il va dire non, ça m'intéresse pas.
C'est là que tu vois, Florian, que tout le Kylian Mbappé qu'il est, avec son énorme talent, eh bien, je le répète, il est perturbé. Et quand on est perturbé,
mais c'est jamais de sa faute. Il y a toujours, c'est toujours.
Mais moi je suis perturbé. Vous n'allez pas me faire le défenseur.
Il a avalé son
de Mbappé. Je l'ai allumé de nombreuses fois justement par ses effets de boulardise. Je dis qu'ici, je peux comprendre. La situation, quand je peux comprendre, moi aussi j'aimerais bien qu'il fasse un grand match, hein, mais je pense que le mec, il y est plus. Il y est plus. Tu peux rien faire comme ça. Il y est à moitié.
Au moment où on se parle, s'il ne met pas le troisième et le quatrième à Barcelone, le troisième, c'est celui de la qualification. Le quatrième, c'est celui de on est tranquille, il reste quelques minutes, le Paris Saint-Germain sera sûr en demi-finale. Donc moi, je suis désolé, sans son doublé à Barcelone, le PSG n'est pas. Il y a prolongation à Montjuïc et je ne sais pas ce qui se passe. Donc on ne peut pas dire que le PSG sera qualifié.
Ouais, les arguments peuvent.
Voilà. Et donc moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas s'il n'est pas content, s'il n'aime pas Enrique, si Enrique ne l'aime pas, s'il est parti dans sa tête. Moi, tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas le vrai Kylian Mbappé qu'on voit. Et donc, il faut absolument, mardi, qu'il y ait le vrai Kylian Mbappé. Le PSG ne peut pas aller en finale s'il n'y a pas Mbappé.
Ah non, mais ça, je te rejoins.
C'est impossible.
Non, mais Dominique...
Après, qu'il soit pas bien. Je m'en fous, tout ça. Mbappé, c'est pas,
Dominique,
c'est pas le vrai qu'on, ouais. C'est pas le vrai qu'on a vu.
Dominique, il a le droit, et c'est ça que j'essaye de faire passer comme message, il a malheureusement aussi le droit d'être perturbé, même quand on s'appelle Kylian Mbappé.
Je m'en fous, je veux voir
le vrai. Je sais que vous en foutez.
On n'est pas chez Mireille Dumas.
On a l'impression que le type, il doit être...
On arrête la psy parce qu'on a un baromètre à terminer de décrypter. Erwan Lestron est toujours avec nous. Et on va se projeter sur le match retour, parce qu'on apprend deux choses dans votre sondage, Erwan, cette semaine, c'est que il y a quand même toujours de l'optimisme chez les supporters de voir ce PSG retourner la situation, mais à un certain prix et notamment à un changement majeur au sein de cette attaque.
Oui, tout à fait. Alors la première info, c'est vrai, très intéressante, c'est que la contre-performance de mercredi n'a pas douché l'optimisme du public. 42% des Français, 66% des amateurs de football voient le PSG se qualifier mardi soir. C'est un pronostic beaucoup plus optimiste qu'avant le match retour face au Barça. Donc ça montre que l'optimisme n'est pas douché. La mission semble à hauteur du PSG. Il reste à transformer ce pronostic sur le terrain. Et sur le terrain, justement, quand on demande aux répondants pour le match retour à Paris, pensez-vous que le PSG doit démarrer la partie avec Gonzalo Ramos en attaquant de pointe, 64% des amateurs de football nous disent oui, tout comme 75% des supporters du PSG.
Donc là, c'est presque un désaveu pour Luis Enrique. 75% des supporters qui sont, mais alors, en rang derrière Luis Enrique, on a l'impression qu'il a une armada derrière lui.
Mais Philippe, juste avant le match retour contre Barcelone, les mêmes réclamaient la titularisation de Manuel Ugarte, soi-disant qui va apporter un impact incroyable au milieu de terrain, là où Vitinha, Zaire Emery et Fabien Ruiz seraient trop tendres. Et puis finalement, c'est avec ce milieu sans Manuel Ugarte qui joue plus une seule minute. Même quand il joue contre Clermont ou Le Havre, le PSG,
tu le vois plus.
Quand la Ligue 1, quand la la Ligue veut bien que le PSG joue un peu au football son championnat, Manuel Ugarte, il est même pas choisi pour jouer à Lorient ou contre le Havre, il a disparu complètement de la circulation. Donc là, je sais qu'il y a un, entre guillemets, en ce moment, il y a un effet de mode parce qu'il fait des bonnes rentrées, ça c'est vrai. Gonzalo Ramos fait des bonnes entrées. Il a un jeu de tête qu'il n'y a pas au Paris Saint-Germain, en attaque en tout cas, et même généralement au Paris Saint-Germain. Dans le petit jeu, il est un peu meilleur que prévu. Il a dédoublé, il a combiné avec Achraf Hakimi sur le but, le deuxième but contre le Havre. C'est des choses que je ne le voyais pas faire en début de saison. Donc il a sans doute progressé.
Et il travaille. Après,
mais il est finisseur. C'est un finisseur.
Le PSG dépend de Gonzalo Ramos. Faut arrêter de faire.
Il y a un petit effet de mode.
Ah oui.
Alors, en tout cas, ce qu'on aimerait, c'est au moins un minima qui rentre dans la partie. Ce serait déjà pas mal.
Non, moi je pense que c'est un vrai numéro 9. C'est un mec qui les tape au fond. Quand on connaît les des Portugais qui te parlent de lui, ils disent que le type a vraiment des qualités indéniables comme finisseur. Et quand ton équipe n'est pas bien et que tu as des joueurs comme Colomoini qui sont à côté de leur pompe, il doit jouer.
Oui, mais le problème, c'est l'équilibre global de l'équipe. Ça nous renvoie malheureusement à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, pourquoi il l'a remis dans l'axe? Il a mis dans l'axe Luis Enrique, hormis Barcola. C'est que en début de saison, il défend jamais. Donc c'est que le mec à gauche derrière, il prenait la marée.
Ça c'est sûr.
Là contre Dortmund, t'avais Nuno Mendes qui en plus était vraiment pas bien. Et donc à partir du moment où tu remets Mbappé à gauche, tu exposes tout ton flanc et prends un deuxième but. C'est pour ça qu'il fait pas rentrer Ramos. Parce que pour que Ramos,
mais il peut commencer aussi. Hein.
Et c'est pour ça qu'il a mis Barcola, parce que Barcola, sauf là. Cette semaine-là, il fait quand même beaucoup plus de boulot défensif. Si t'es sur les côtés, tes mecs défendent pas, t'es mort.
Ah, donc Mbappé, en fait, Mbappé, le pauvre Ramos, il peut pas jouer parce que Mbappé défend pas.
Bah oui, parce que sinon ça déséquilibre l'équipe.
C'est terrible au Paris Saint-Germain.
Et à Barcelone,
on parle bien de Paris Saint-Germain. C'est pas Piperzell, c'est pas le club du village.
À Barcelone, il a fait les efforts un peu plus Mbappé, ça joue. Bah ouais, mais
pauvre Ramos, quoi. Il y a un poster de Mbappé dans sa chambre, il va.
Mais c'est un équipe d'équipe, Stéphane. Toi, tu joues que on n'est pas sur FIFA, on n'est pas sur PlayStation.
Enfin, quand t'achètes un mec, combien ils ont payé Ramos?
Mais c'est pas une question de prix.
Tu l'as acheté parce qu'il a une valeur et que c'est un bon attaquant. Donc il doit jouer. Les bons attaquants, ils jouent. Mais là, ils jouent pas parce qu'Mbappé défend pas à gauche.
Ils sont qualifiés sans lui.
On marche sur la tête.
Barcelone. Je crois que Barcelone, c'est plus fort que Dortmund. Et ils sont qualifiés. Ils ont gagné sur l'ensemble des deux matchs 6-2, c'est ça
6-4.
6-4, pardon. Ouais. Donc ils ont marqué 6 buts sans Gonzalo Ramos contre Barcelone, qui je crois est supérieur à Dortmund malgré tout. Donc si aujourd'hui vous me dites que le PSG mardi ne peut pas s'en sortir si Ramos ne joue pas,
ça on n'a pas dit. On a dit qu'il mériterait de jouer parce qu'il y en a des autres qui sont mauvais. En ça, on n'a pas dit que le PSG est tributaire de lui.
On verra ça.
Et Colomoini peut aussi un petit peu aller souffler.
Monsieur Powell, on remercie Erwan Lestran pour la qualité de ce sondage de la semaine.
Bon sondage.
Oui, qui était intéressant. Il y a d'autres chiffres intéressants, notamment le fait que les supporters préféraient jouer le Real que le Bayern en finale. Mais encore faudrait-il se qualifier pour cette fameuse finale. C'est terminé d'ailleurs entre Metz et Reims. 2-1 pour le FC Metz. C'est donc
À la mi-temps.
Et 2-1 pour le moment, effectivement. Oui, il y a 2-1 dans un match. Il y a des matchs à 15h, à 17h, à 19h. J'étais en train de m'embrouiller un peu. On fait une petite page de pub et puis surtout, on va se pencher sur le cas de l'Olympique de Marseille. Après ce match nul, un but partout face à l'Atalanta, est-ce que c'est jouable pour l'OM jeudi prochain à Bergame? A tout de suite dans On fait le match.
On refait le match avec Philippe Sanfourche. On en parle.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 27 au 31 mai. On en parle avec Jean-Michel Pinel. Vous êtes le dirigeant de la société CEPI basée en Bretagne, où je vous appelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous en quoi consiste cet événement?
Eh bien, les journées de la sécurité routière au travail incitent les employeurs à organiser des animations de sensibilisation aux risques routiers.
Alors justement, quel choix avez-vous fait pour vos salariés?
On a décidé de préparer suffisamment à l'avance leurs déplacements pour prévenir les risques de fatigue sur la route. Nos véhicules sont équipés d'outils d'analyse des conduites et puis on a imposé une tolérance zéro pour le téléphone au volant.
Très bien, merci.
On en parle. Pour participer aux journées de la sécurité routière au travail, rendez-vous sur sécurité-routière.gouv.fr.
Demain à 12h, retrouvez le grand jury spécial élections européennes.
C'est le premier débat entre les 7 têtes de liste aux élections européennes, programme contre programme, argument contre argument. Pour qui allez-vous voter? 2 heures d'émission pour vous faire une opinion en direct sur RTL et Paris Première, en partenariat avec M6, Le Figaro et LCP, la chaîne parlementaire.
Le grand jury spécial élections européennes, présenté par Olivier Bost, c'est demain entre 12h et 14h sur RTL. RTL.
On refait le match
avec Philippe Sanfourche.
Les rames de métro sont pleines en direction du Vélodrome. Un millier de policiers ont été déployés autour du stade. On nous parle de grands rendez-vous, on croise des écharpes, des maillots bleus et blancs à chaque coin de rue.
Le but pour Bethlehem. L'ouverture du score, c'est Skabaka.
Colombia pour Mbemba, la frappe de Mbemba. Le but. Chancel Mbemba. L'homme des grands rendez-vous, comme toujours en Europe.
Un petit goût amer, conscient d'avoir fait le match qu'il fallait contre une bonne équipe. On est à la mi-temps d'un match, un partout. On a eu des occasions, on a eu une barre, on a eu un but refusé. Donc ça laisse quand même beaucoup d'espoir.
Ah, il vous plaise, hein, Stéphane Powell, ces teasers. Hein.
Bah,
ah, merci à
Léa
et à Spencer à la réalisation. Ah, ouais, là, une équipe de choc. Ah, de...
Le Spencer, et c'est le Spencer. Hein.
Ah, ouais, mais
c'est Champions League, c'est Coupe d'Europe.
C'est Champions League. Bon. Bah, là, c'était pas Champions League.
Non, mais c'était Coupe d'Europe.
Ligue Europa. Mais ouais. Bon, est-ce que cette équipe de l'OM, elle vous a agréablement surpris? Est-ce que, limite, il y a des regrets, en fait, après ce match nul?
Ah, bah, clairement. Clairement des regrets, parce qu'ils ont largement les occasions pour remporter ce match. Aubameyang en croque une, qui nous a pas habitués à rater ces dernières semaines, où il est quand même absolument hallucinant. Il y a eu beaucoup de situations. Ouais, moi j'ai été très agréablement surpris par l'OM, parce qu'on avait l'impression, on se disait, les Italiens ils courent dans tous les sens, Gasperini, vous allez voir ce que vous allez voir. Les Olympiens sont un peu fatigués, ça va être dur physiquement. Puis au final, à la fin du match, j'ai l'impression qu'ils les ont bouffés physiquement et qu'ils ont pas vu le jour. Franchement, il y a vraiment à avoir des regrets sur ce match pour Marseille, ils auraient dû l'emporter et j'espère qu'ils ne regretteront pas au match retour. Mais
moi, j'ai pas la même analyse.
Hein, bah, je t'écoute.
Non, mais les regrets qu'ils en ont, oui, ça c'est sûr, forcément, tu croques des. Mais moi, je pense que les Italiens sont venus gérer, ils ont fait de la gestion, ils ont défendu de façon magnifique.
C'est pas leur ADN de gérer à la
Écoute, ils sont venus. Et je vais pas
plomber quand même en seconde période.
Je vais pas plomber l'ambiance et Dieu sait que j'aimerais bien que l'OM passe. Je pense qu'ils vont se faire taper au match retour, l'OM. Et je pense parce que ces Italiens, c'est une très très belle équipe. Il y a des joueurs qui étaient comme de Cotelar qui étaient un petit peu en dessous. Il y a des joueurs eux aussi, ils ont pas fait. L'Atalanta est une très très bonne équipe, hein, qui propose.
On dit pas que c'est
mais
une
eux aussi, ils ont été un petit peu en dessous. Alors l'OM, ils ont été courageux, valeureux, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que moi,
mais
alors,
c'est pas la Juve, c'est pas le. C'est
Mbemba,
pas
Mbemba, c'est Jean Salimé, un but.
Ils ont une expérience européenne limitée, vos amis de l'Atalanta aussi.
Non, mais le Chancel Mbemba, il met un but génial et il est récompensé de tous ses efforts. Mais c'est très chanceux. Le reste. Parce que moi j'aime bien.
C'est chanceux, ça, mec.
Non, mais ce que j'aimerais bien quand même de dire que tout est beau, tout est rose. Moi j'ai trouvé que Jonathan Clauss était très bon. Je signale quand même qu'il y a trois mois, son club voulait s'en séparer.
Monsieur Mehdi Benassia. Oui.
Non, mais on est bien d'accord. Donc à un moment, il faut qu'on arrête d'embellir tout ça. C'est bien. Ils ont fait un match courageux pour le public, c'était génial.
Ouais, mais moi, je pense que ça, Stéphane. Je pense que.
Ils ont rien concédé à la malade.
Ça pourrait se retourner contre moi avec Dortmund, ce que je vais dire. Mais moi, je pense qu'il y a un supplément d'âme de l'OM dans cette Coupe d'Europe, par son historique, par son passé.
Monsieur Garcia.
Et il se passe quelque chose cette année, et historiquement, souvent avec l'OM en Coupe d'Europe, pas en Ligue des Champions, par exemple, quand le niveau est trop haut, ils perdent beaucoup de matchs de poule, mais il y a quand même régulièrement, ils sont à la hauteur de l'événement, eux, et quand bien même l'Atalanta, sur deux matchs, est plus fort qu'eux, eh ben, on voit qu'il y a un suspense, ils vont se faire taper, mais il y a quand même un suspense, c'est incertain. Moi, je sais pas du tout ce qui va se passer, et je pense que, à un moment donné, ça se joue plus tellement au foot, donc c'est pour ça que ça se retourne contre moi par rapport à PSG Dortmund, parce que je pense que le PSG est largement supérieur à Dortmund, et le PSG va passer, mais je pense aussi qu'à un moment donné, il y a un côté mental, il y a un côté cette énergie que tu mets dans le match qui fait que tu arrives en finale parce que tu la veux tellement.
Non mais Dominique,
et je pense que l'OM la veut plus que l'Atalanta.
Dominique, je te dis pas le contraire.
Se qualifier, moi.
Dominique, les mecs qui sont sur les. T'imagines, Monsieur Gassé, ce qu'il fait là, c'est exceptionnel. Cette équipe, on peut en reparler tout à l'heure. On va en reparler avec Monsieur Longoria. Cette équipe a quand même des faiblesses et relativement pour moi faible de l'OM. On le voit en championnat. Et donc ils vont sur effectivement l'affect, l'envie. Moi, Rongier, il est exceptionnel. Je pense que.
Mais Rongier joue pas. Veretout,
même sur une jambe, il continue à jouer. Je veux dire, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que physiquement, quand tu vas aller à l'Atalanta Bergame, les mecs, ils vont te rentrer dedans, ils vont te faire un vrai match de football. Et là, t'as beau avoir un gros cœur, t'auras pas un vélodrome. Il y a, oui, que, il y a que 700 supporters.
Oui,
foot. Oui, il y a verra. Que 700 Marseillais qui
oui,
vont là-bas.
On verra, pense. Steph, c'est comme on dit, Paris va se qualifier contre Dortmund. On verra. Moi, je trouve que ce qu'ils ont montré, l'OM, il y a des joueurs.
Non, mais le but, c'est de se positionner. Moi, je suis pas le but pour faire du fraude balle et dire aux supporters d'OM, vous allez gagner, vous qualifiez.
Ouais, mais tous les joueurs, Balerdi, Mbembe, il y a pas, tous les joueurs ont été vraiment au niveau et même ils ont surperformé par rapport à leur niveau en championnat. Donc ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire quand même.
Le cœur, ils ont joué avec du cœur.
Oui, mais ils ont montré l'envie que Paris a pas montré, par exemple.
Pour revenir à ce que la conversation qu'on avait en début d'émission, je disais ma conversation avec les membres du staff du PSG, ils disent au retour il nous faudra un supplément d'âme. Tu vois, ils sont pas en train de parler de foot, ces gens-là. Même les gens du foot ne parlent pas de foot. Ils disent pas il faudra que tactiquement on maîtrise Brandt, Sabitzer.
Faut qu'on y aille.
Il faut qu'on ait un supplément d'âme qu'on n'a pas eu à Dortmund. Et donc moi je crois vachement à ce moment-là, à ce stade-là, quand t'es en demi, t'as une finale au bout. C'est le rêve d'une vie. Tu te dis après sur un match tout est possible. Vous verrez si l'OM est en finale ou si Paris est en finale. La phrase que vous allez entendre le plus pendant un mois ou pendant trois semaines, c'est sur un match tout est possible. Donc t'as ce rêve qui est là au bout et donc ça convoque d'autres histoires que la tactique, que le jeu, que machin, que est-ce que t'es sur le couloir gauche, t'es bien équilibré. C'est-à-dire qu'à un moment donné ça bascule dans l'irrationnel et je vois l'OM capable dans cette irrationalité là d'aller chercher cette
mais finale. Ils sont très tributaires d'Aubameyang, hein,
parce que c'est leur histoire, parce que c'est le premier club français qui a gagné une coupe d'Europe,
ouais.
En tout cas la Ligue des Champions. Donc voilà,
c'est... moi je trouve que cette équipe est je me mouille, mais j'ai relativement faible, c'est l'équipe d'OM. Alors elle me plaît dans l'engagement,
mais ça Stéphane on le sait depuis le début de la saison,
mais donc j'essaye de vous dire que
je pense que même eux, chaque fois qu'ils sont en coupe d'Europe, ils nous montrent des
effectivement. Ils ont joué contre qui aussi en coupe d'Europe?
Ah ben ils ont joué comme
Donetsk,
Benfica qui avait été quasiment éliminé par Toulouse. Allez, on va être sérieux quand même. Arrêtez de nous vendre du rêve.
Tous les clubs perdre contre Benfica,
c'est historiquement. Ils ont gagné la Coupe d'Europe.
Jamais content, ils sont en demi-finale, on n'est pas content.
Mais je suis content.